Salut, salut, vous êtes bien sur Radio Canu pour Comment faut-il que je vous le dise ? Une émission de poésie qui fait gaffe aux mots qu'elle utilise. Et c'est avec le sourire que vous ne voyez pas qu'on va vous dire de jolis mots tels que trouble, Suriname, Poséidon, clash, lévité ou pygmalion. Bon alors, on c'est qui ? Bah on c'est Julie.
Salut, salut.
On c'est Greg.
Salut, salut.
Et on c'est Alina, notre invitée.
Salut.
Voilà, et c'est comme ça qu'on commence.
Le bon vieux temps. Tu t'étais assoupi devant la télé, mais tu ne t'étais pas encore couché quand t'as appelé. Je dormais ou presque quand le téléphone a sonné. T'avais envie de me dire que t'avais fait une fête et que je vous avais manqué. C'était comme au bon vieux temps, t'as dit. C'était avant de rire que tu as dit ça. Le dîner était catastrophique. Tout le monde était ivre-mort quand la bouffe a été sur la table. Les gens s'amusaient bien, s'amusaient comme des fous, comme des malades. Jusqu'à ce qu'un type s'avise d'emmener la fiancée d'un autre type à l'étage. Alors l'autre type a sorti un couteau. Mais tu t'es mis devant le mec quand il montait l'escalier et tu l'as convaincu de redescendre. Catastrophe évitée de peu. T'as dit avant de rire encore, tu te rappelais pas grand-chose d'autre qui s'y était passé, mais les gens avaient remis leur manteau et commencé à s'en aller. Toi, tu as dû piquer du nez quelques minutes devant la télé parce qu'elle te gueulait d'aller chercher un verre quand tu t'es réveillé. Quoi qu'il en soit, t'es à Pittsburgh. Et moi ici, dans ce petit patelin à l'autre bout du pays. Quasiment tout le monde a disparu de nos vies à présent. T'as eu envie de m'appeler pour dire bonjour, pour dire que tu pensais à moi, et au bon vieux temps, pour dire que je te manquais. C'est là que je me suis souvenu de ces jours enfuis où les téléphones tressautaient quand ils sonnaient, et des gens qui déboulaient aux petites heures du matin pour tambouriner à la porte à bout de nerfs. Sans parler de l'état de nerfs à l'intérieur, je me suis souvenu de ça, et des fameux gueuletons, des couteaux qui traînaient dans l'attente du grabuge, d'aller me coucher en espérant que je ne me réveillerai plus. Je t'aime, frangin, t'as dit. Et puis un sanglot est passé entre nous. J'ai serré le combiné comme si c'était le bras de mon pote. Et j'aurais voulu, pour nous deux, pouvoir refermer les bras sur toi, mon vieux copain. Je t'aime aussi, frangin. J'ai dit ça et puis on a raccroché.
Jean-Luc Fournier a volontairement brûlé à plusieurs reprises de nombreux dessins et des peintures. Il pense n'avoir jamais détruit de photographie. En 1998, Siegfried Ceballos a jeté de nombreux travaux, dont une centaine de dessins au crayon. Il a aussi renoncé à certains procédés conceptuels. En septembre 1962, Julien Blaine a noyé les manuscrits de sa revue « Les carnets de l'Octéor » dans le canal Saint-Martin à Paris. En 1998, Jean-Pierre Corda a déchiré ou brûlé de nombreux collages et plusieurs centaines de photomontages. En mars 1953, Robert Rauschenberg a jeté dans l'Arnaud des invendus d'une exposition qu'il avait faite à la Galleria dell'Arte Contemporanea de Florence. Au cours de son déménagement en 1996, Frank Fursman a abandonné une série d'installations et de tableaux dans une maison à Bruxelles. En 1990, Denis Falgou a mis un ensemble de dessins à la poubelle. Jacques Malgorn les a revus quelques jours plus tard sur un marché aux puces où ils se vendaient fort bien. Depuis cette mésaventure, Denis Falgou détruit soigneusement tout ce qu'il jette. José Sicard a tout abandonné. Jean-Pierre Reynaud a démoli sa maison en 1993. Certains gravats ont été placés dans des seaux chirurgicaux, exposés et vendus. Au début de l'été 1999, Sébastien Morlighem a déposé sur le toit de son appartement de Montreuil deux petites peintures sur support léger, en laissant au vent et aux autres intempéries le soin de les disperser ou de les détruire. Coquelicot, rafistolé, coulisse, agate, ricochet,
aiguiller, petit mot, mère, tramway, nain, écluse, cigarette, marelle, reposoir, soupe, cahier, réobol, sébastomur, escogriffe, transhumance, édredon, s'esclaffer, ours, taciturne, frangipane, automobile, compostelle, orion, lavandière, pourtant,
top.
Pourtant, vous ne jouez plus de guitare, pourtant ça vous allait si bien. Et oui madame, quelle nostalgie dans ce pourtant, que de regrets et que d'injustice aussi. Pourtant c'est le décalage, c'est l'hiatus entre l'attente et le résultat. C'est la prise de conscience de ce qui aurait pu être et qui n'est pas. Il s'est passé quelque chose, mais quoi ? Vous avez raté votre gâteau, il est immangeable. Pourtant, vous y aviez mis tous les ingrédients requis par la recette, tous vos soins et votre cœur aussi, et peut-être même une bague. Pourtant, c'est le centimètre qui sépare vos mains du trapèze. Vous aviez fait tous vos exercices, cela faisait des années que vous réussissiez cette voltige. Pourtant, n'a qu'à faire du mérite, de la justice ou de l'espoir. C'est un impondérable cruel, c'est le démon qui se moque de vous. Livre, capodastre, libellule, œuf, acacia, fanfreluche et falbala, soupe, eau, vache, améthyste, paletot, ornis, bric-à-brac, verger, larousse, parfum, escalier, grenouille, Alsace, espérance, anniversaire, mémoire, calanque.
Top.
Calanque. À sens égal, je le préfère à cric. Cric, c'est dur, c'est coupant, c'est plein de rochers en éclats et de coquilles d'oursins, prêts à vous entailler et à vous embrécher les pieds. Tandis que calanque, son premier A est ouvert avec un sourire. Quant à la diphtongue an, on peut l'imaginer ornée d'un G pour prononcer ange, tant elle abrite une pointe d'accent. Ça sent la cigale et les aiguilles de pin chauffées au soleil, l'anis et le poisson grillé. Ça retentit de plongeons et de cris d'enfants, du bruit des boules de pétanque roulant sur le sol, des appels colorés de voix que l'on pourrait croire fâchées et qui ne sont que véhémentes dans leur grossièreté naïveté. Ça pétarade aussi entre pétrolette et bateau, et quand le vent souffle, il ne fait pas semblant. C'est aussi et surtout comme des bras grands ouverts sur la mer que l'on aborde directement, en une plongée depuis les rochers, sans s'empêtrer dans des kilomètres de sable. Et on coule, les yeux écarquillés dans le bleu, dans le vert, dans la féerie. Et on se demande pourquoi on est resté si longtemps loin d'elle, sans dépérir tout à fait. Et on se pardonne des clichés qui parfois sont la seule façon d'exprimer une nostalgie sincère. Waflotté, candidat, débarroulé, mensonge, jardinier, labyrinthe, myosotis. Mais bon, pluie, angine, encre, huile, tombée des nues. Rutabaga, commode, pavane, tomate, il est lag, baldaquin, vague. Baliverne et biversée, barboteuse, arachnéenne. Empelectopsis, patarou, brunante, sœur.
Top.
Sœur. Qu'y a-t-il de plus proche qu'une sœur ? On vient du même endroit, on a habité le même ventre. On a bu le même lait, humé les mêmes odeurs, été bercé par les mêmes bras, entendu les mêmes berceuses, les mêmes mots doux. Si on n'a pas la chance d'être née jumelle, on se jalousera toujours. L'une d'avoir été évincée, l'autre d'en avoir manqué un épisode. On s'enviera la couleur des yeux de maman, la forme des oreilles du grand-père. On subira ensemble le nez de papa ou son caractère. On encaissera bon gré malgré les comparaisons. Elle sera mince, elle. Quand à 15 ans, on abordera son premier régime et qu'elle se vautrera dans le chocolat. Les adultes sont des bourreaux. On aimera, puis on n'aimera plus du tout qu'on nous habille pareil. Plus tard, on se chipera des fringues, dès qu'on le pourra. On se détestera, on s'enverra des réveils à la figure, des araignées dans le cou. On se fera les pires vacheries et on pleurera dans les bras l'une de l'autre. On ne se comprendra jamais. On s'en voudra toujours pour une gifle ou une poupée cassée, pour un oubli, pour une indiscrétion. Et puis on ira marcher dans des forêts, sur les bords de la Seine. On prendra des fous rires pour des idioties que nous seuls comprendrons, qui nous feront nous tordre encore. 10 ans, 20 ans après, on s'oubliera parfois. Zut, ma sœur. Mais on saura que cet incontournable, cet irremplaçable, on ne s'en débarrassera pas comme ça. Tout comme sur les genoux de maman, et que si elle venait à manquer, on se retrouverait coupé en deux. On n'y peut rien, c'est dans le sang. La faute à papa et à maman, c'est mon souci, c'est ma douceur, c'est ma sœur. Humus, mot, santiché, trois otaries et gosille. Crédule, Greenbush et Dekenia, au dépourvu, jongleur, sous-fifre, dinosaure, amour.
Top.
J'ai rien à dire ou alors trop.
Juste quand tu penses pouvoir sortir sans parapluie, il se met soudainement à pleuvoir. Juste quand tu penses pouvoir sortir et être seul, tu rencontres l'amour dans ton chemin. Dans ta chambre, il y a un aquarium avec peut-être 30 poissons dedans. Pendant qu'on fait l'amour, je les regarde. À l'intérieur, c'est une lutte brutale et ininterrompue pour la domination. L'eau est à moitié sang. Tellement de folie dans un si petit espace. C'est comme un de ces bâtiments bourgeois au centre de Paris. Ils sont mignons, n'est-ce pas? Tu dis. Je les regarde et ça me calme. C'est comme une forme de méditation. Mon Dieu, parfois t'es bête. Vivre avec toi, c'est vivre entouré de cette chasse sauvage, de cette tour affamée, de cette statue de Bouddha, de cette concubine jalouse. Vivre avec toi, c'est grimper chaque jour les sept montagnes sacrées, la montagne de perles, la montagne de sang, la montagne de glace, la montagne de vanité, la montagne de sucre, la montagne de gluten. Vivre avec toi, c'est la pire chose qui ne m'est jamais arrivée. Je veux être le son de tes pas, la fumée de ta cigarette, un bout d'épine entrant dans ton doigt qui fait son chemin jusqu'à ton cœur, les gouttes de pluie tombant sur tes paupières, la blague qui te fait rire. J'étais encore bébé quand Tchernobyl se passa. J'étais trop jeune pour ressentir la peur. Mais maintenant, des années plus tard, je me demande si cette tristesse immense est à cause de l'empoisonnement radioactif ou bien à cause de toi. Viens danser avec moi, me dit mon amour. Où? Ici. Mets un peu de musique. Non, je vais te chanter à l'oreille la plus belle chanson du monde. Rapproche-toi. Tu ne m'embrasses jamais le matin si tu ne t'es pas brossé les dents. Tes baisers ont le goût de dentifrice à la cannelle, ton préféré. Tu te l'achètes une fois par mois au magasin bio. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je déteste la cannelle. Si je vivais dans cette ville, je viendrais plus souvent te voir. À force, t'aurais marre de moi, je dis. Tu réponds, viens quand tu veux, j'ai une chambre de libre. Reste tant que tu veux. J'ai mal à la cheville, il y a un briquet rouge sur la table. Je devrais partir, je dis. Tu m'as dit que tu m'aimais tellement que tu voulais me serrer avec tes côtes. J'ai pensé que c'était très romantique, pas ennuyant comme t'as l'habitude de l'être. Plus tard, j'ai découvert que t'avais plagié cette phrase d'un poète quelconque. Un que ma mère adore, tant qu'on y est. Je suis dans le bus, il pleut. Ma jalousie me tue. Et je me souviens que la dernière fois que nous avons fait l'amour, une libellule bleue est entrée dans la pièce et n'est jamais ressortie. Reste ici avec moi, me dit mon amour. On formera un groupe de jazz et à l'avenir, je ne serai plus mauvaise avec toi. Je suis restée. Mon amour a la chair amère, des pyjamas en soie, une voix mélancolique, un goût pour les sucreries, des mains translucides, un goût esthétique raffiné, des amis ennuyeux, du rouge à lèvres hors de prix, une passion pour Pink Floyd, de l'empathie, une compréhension anthropologique de la mode. Oh, ce sentiment de plénitude quand je suis avec mon amour. Te souviens-tu de ce jour où tu m'as quitté? C'était le jour où mon sang s'était transformé en une rivière de désespoir. Ce ciel amer me pèse. Je ne sers à rien sans toi. Toi avec ton rouge à lèvres bon marché, ton anneau de funérailles en or et rubis. Toi, te rongeant les ongles sur mon lit, habillant kimono de soie, ta cruauté était pénible et sans filtre. Je vais toute seule au cinéma ces jours, je pleure jusqu'à la fin. Aucun de tes atomes ne m'attend ces jours, aucun signe ne me mène vers toi. Un matin, je me suis réveillée en chantant avec une magnifique voix. Je me suis surprise moi-même avec ce beau chant. Quel dommage que personne soit à mes côtés pour m'entendre chanter. Tu sens comme une vieille dame, me dit mon amour. Tu sens le patchouli, les crêpes et la mort. Mais j'adore, je trouve ça trop sexy. Tu as déménagé récemment dans la maison de ton nouveau copain. Elle est infinie et décorée avec bon goût. Elle se trouve sur la rue Mozart. Tu m'avais dit de venir prendre un café pour me rendre mes dernières choses de notre ancien chez nous. Poliment, je complimente l'élégance et le raffinement de l'endroit. Tu réponds, c'est facile d'avoir bon goût quand on a tellement d'argent. J'entends du mépris dans ta voix. Il m'est toujours impossible de te contredire. Je n'ai pas encore rencontré ton nouveau copain et je n'en sens pas l'envie. D'ailleurs, je pense toujours à toi. J'adore cette musique, je te dis. Tu réponds, c'est du Yun Miyake. Le fleuve n'a jamais été si froid. Un ancien amant est immobile dans ma mémoire. Tu dis, quelque chose a changé en moi. J'ai envie de partir, mais d'où ? Rien ne m'est familier dans cet endroit. Pourtant, quelle familiarité obscène. Bientôt, toi aussi, tu seras immobile dans ma mémoire. Le fleuve coule brûlant comme de la lave. Des poissons monstrueux aux nageoires en feu m'attaquent. Je t'entends au loin, tu chantes dans les vieilles rues. Ta voix est la pire chose chez toi, mais après tout, c'est aussi le pire défaut de Scarlett Johansson.
Peur. Peur de voir une bagnole de flic pénétrer dans l'allée. Peur de s'endormir la nuit. Peur de ne pas s'endormir. Peur que le passé remonte. Peur que le présent s'envole. Peur de la sonnerie du téléphone en pleine nuit. Peur des orages électriques. Peur de la femme de ménage avec sa tache sur la joue. Peur des chiens dont on m'a dit qu'ils ne mordraient pas. Peur de l'anxiété. Peur d'avoir à reconnaître le corps d'un ami défunt. Peur de n'avoir plus d'argent. Peur d'en avoir trop. Je sais que les gens ne le croiront pas. Peur des profils psychologiques. Peur d'être en retard et peur d'arriver avant tout le monde. Peur de voir l'écriture de mes enfants sur les enveloppes. Peur qu'il meure avant moi et de sentir coupable. Peur de le devoir vivre avec ma mère quand elle sera vieille et que je serai vieux. Peur de la confusion. Peur que ma journée se termine sur une note malheureuse. Peur de me réveiller pour découvrir que tu es parti. Peur de ne pas aimer et peur de ne pas aimer assez. Peur que ce que j'aime se révèle mortel pour ce que j'aime. Peur de la mort. Peur de vivre trop longtemps. Peur de la mort, mais ça je l'ai déjà dit.
J'étais alors juge d'instruction à Ajaccio, une petite ville blanche couchée au bord d'un admirable golfe qu'entoure partout de hautes montagnes. Ce que j'avais vu, surtout à poursuivre là-bas, c'était les affaires de vendetta. Il y en a de superbes, de dramatiques au possible, de féroces, d'héroïques. Nous retrouvons là les plus beaux sujets de vengeance qu'on puisse rêver. Les haines séculaires, apaisées un moment, jamais éteintes, les ruses abominables, les assassinats devenant des massacres et presque des actions glorieuses. Depuis 2 ans que j'entendais parler de prix et du sang, que ce terrible préjugé corse qui force à venger toute injure sur la personne qui l'a faite, sur ses descendants et ses proches, j'avais vu égorger des vieillards, des enfants, des cousins. J'avais la tête pleine de ces histoires. Or, j'appris un jour qu'un Anglais venait de louer pour plusieurs années une petite villa au fond du golfe. Il avait amené avec lui un domestique français pris à Marseille en passant. Bientôt, tout le monde s'occupa de ce personnage singulier. Il vivait seul dans sa demeure, ne sortant que pour chasser et pour pêcher. Il ne parlait à personne, ne venait jamais à la ville, et chaque matin s'exerçait pendant 1 heure ou 2 à tirer au pistolet et à la carabine. Des légendes se firent autour de lui. On prétendit que c'était un haut personnage fuyant sa patrie pour des raisons politiques. Puis on affirma qu'il se cachait après avoir commis un crime épouvantable. On citait même des circonstances particulièrement horribles. Je voulus, en ma qualité de juge d'instruction, prendre quelques renseignements sur cet homme. Mais il me fut impossible d'en rien apprendre. Il se faisait appeler Sir John Rowell. Je me contentai donc de le surveiller de près. Mais on me signalait en réalité rien de suspect à son égard. Cependant, comme les rumeurs sur son compte continuaient, grossissaient, devenaient générales, je résolus d'essayer de voir moi-même cet étranger. Et je me mis à chasser régulièrement dans les environs de sa propriété. J'attendis longtemps une occasion. Elle se présenta enfin sous la forme d'une perdrix que je tirais et que je tuais devant le nez de l'anglais. Mon chien me la rapporta, mais prenant aussitôt le gibier, j'allai m'excuser de mon inconvenance et prier Sir John Rowell d'accepter l'oiseau mort. C'était un très grand homme, à cheveux rouges, à barbe rouge, très haut, très large, une sorte d'Hercule placide et poli. Il n'avait rien de la raideur dite britannique, et il me remercia vivement de ma délicatesse en un français accentué d'autres manches. Au bout d'un mois, nous avions causé ensemble 5 ou 6 fois. Un soir, enfin, comme je passais devant sa porte, je l'aperçus qui fumait sa pipe, à cheval sur une chaise, dans son jardin. Je le saluai, et il m'invita à entrer pour boire un verre de bière. Je ne me fis pas répéter. Il me reçut avec toute la méticuleuse courtoisie anglaise. Parla avec éloge de la France, de la Corse, déclara qu'il aimait beaucoup cet pays et cet rivage. Alors je lui posai avec de grandes précautions et sous la forme d'un intérêt très vif, quelques questions sur sa vie, sur ses projets. Il répondit sans embarras, me raconta qu'il avait beaucoup voyagé en Afrique, dans les Indes, en Amérique. Il ajouta en riant, « J'avais eu beaucoup d'aventures, oh yes !» Puis je me remis à parler chasse, et il me donna des détails les plus curieux sur la chasse à l'hippopotame, au tigre, à l'éléphant, et même la chasse aux gorilles. Je dis, « Tous ces animaux sont redoutables ?» Il sourit, « Oh no, le plus mauvais, c'était l'homme !» Il se mit à rire tout à fait, d'un bon rire de gros anglais content. J'avais beaucoup chassé l'homme aussi. Puis il parla d'armes et il m'offrit d'entrer chez lui pour me montrer des fusils et divers systèmes. Son salon était tendu de noir, de soie noire brodée d'or. De grandes fleurs jaunes couraient sur l'étoffe sombre, brillaient comme du feu. Il annonça, c'était une drape japonaise. Mais au milieu du plus large panneau, une chose étrange me tira l'œil. Sur un carré de velours rouge, un objet noir se détachait. Je m'approchais, c'était une main d'homme. Non pas une main de squelette, blanche et propre, mais une main noire, desséchée, avec des ongles jaunes, les muscles à nu et des traces de sang ancien. De sang pareil à une crasse, sur les os coupés nets, comme un coup de hache vers le milieu de l'avant-bras. Autour du poignet, une énorme chaîne de fer rivée, soudé à ce membre malpropre, l'attaché au mur par un anneau assez fort pour tenir un éléphant en laisse. Je demandai, « Qu'est-ce que cela ?» L'anglais répondit tranquillement, « C'était ma meilleure ennemie. Il venait d'Amérique. Il avait été fendu avec le sabre et arraché avec la peau, avec une caillou coupante, et séché dans le soleil pendant 8 jours. Oh, très bonne pour moi, cette !» Je touchai ce débris humain, qui avait dû appartenir à un colosse. Les doigts démesurément longs étaient attachés par des tendons énormes que retenaient des lanières de peau par place. Cette main était affreuse à voir, écorchée ainsi. Elle faisait penser à quelque vengeance de sauvage. Je dis, cet homme devait être très fort. L'anglais prononça avec douceur, « Oh yes, mais je étais plus fort que lui. J'avais mis 7 chaînes pour le tenir. » Je crus qu'il plaisantait. Je dis, cette chaîne maintenant est bien inutile. La main ne se sauvera pas. Sir John Rowell reprit gravement. Elle voulait toujours s'en aller. Cette chaîne était nécessaire. D'un coup d'œil rapide, j'interrogeai son visage, me demandant, est-ce un fou ou un mauvais plaisant ? Mais la figure demeurait impénétrable, tranquille et bienveillante. Je parlais d'autre chose et j'admirais les fusils. Je remarquais cependant que 3 revolvers chargés étaient posés sur les meubles, comme si cet homme eût vécu dans la crainte constante d'une attaque. Je revins plusieurs fois chez lui, puis je n'y allais plus. On s'était accoutumé à sa présence, il était devenu indifférent à tous. Une année entière s'écoula. Or, un matin, vers la fin de novembre, mon domestique me réveilla en m'annonçant que Sir John Rowell avait été assassiné dans la nuit. Une demi-heure plus tard, je pénétrai dans la maison de l'anglais avec le commissaire central et le capitaine de gendarmerie. Le valet, éperdu et désespéré, pleurait devant la porte. Je soupçonnais d'abord cet homme, mais il était innocent. On ne put jamais trouver le coupable. En entrant dans le salon de Sir John, j'aperçus du premier coup d'œil le cadavre étendu sur le dos, au milieu de la pièce. Le gilet était déchiré, une manche arrachée pendant. Tout annonçait qu'une lutte terrible avait eu lieu. L'anglais était mort étranglé. Sa figure noire, égonflée, effrayante, semblait exprimer une épouvante abominable. Il tenait entre ses dents serrées quelque chose. Et le cou, percé de 5 trous qu'on aurait dit faits avec des pointes de fer, était couvert de sang. Un médecin nous rejoignit. Il examina longtemps les traces des doigts dans la chair et prononça ces étranges paroles. On dirait qu'il a été étranglé par un squelette. Un frisson me passa dans le dos et je jetai les yeux sur le mur. À la place où j'avais vu jadis l'horrible main décorchée, elle n'y était plus. La chaîne brisée pendait. Alors je me baissai vers le mort et je trouvai dans sa bouche crispée un de ses doigts, de cette main disparue, coupée, ou plutôt sciée par les dents juste à la deuxième phalange. Puis on procéda aux constatations. On ne découvrit rien. Aucune porte n'avait été forcée, aucune fenêtre, aucun meuble. Les deux chiens de garde ne s'étaient pas réveillés. Voici en quelques mots la déposition du domestique. Depuis 1 mois, son maître semblait agité. Il avait reçu beaucoup de lettres brûlées à mesure. Souvent, prenant une cravache dans une colère qui semblait de la démence, il avait frappé avec fureur cette main séchée, scellée au mur et enlevée, on ne sait comment, à l'heure même du crime. Il se couchait fort tard et s'enfermait avec soin. Il avait toujours des armes à portée du bras. Souvent, la nuit, il parlait haut comme s'il se fût querellé avec quelqu'un. Cette nuit-là, par hasard, il n'avait fait aucun bruit. Et c'est seulement en venant ouvrir les fenêtres que le serviteur avait trouvé Sir John assassiné. Il ne soupçonnait personne. Je communiquai ce que je savais du mort aux magistrats et aux officiers de la force publique. Et on fit dans toute l'île une enquête minutieuse. On ne découvrit rien. Or, une nuit, 3 mois après le crime, j'eus un affreux cauchemar. Il me sembla que je voyais la main, l'horrible main, courir comme un scorpion ou comme une araignée le long de mes rideaux et de mes murs. 3 fois, je me réveillais. 3 fois, je me rendormis. 3 fois, je revis le hideux débris galoper autour de ma chambre, en remuant des doigts comme des pattes. Le lendemain, on me l'apporta, trouvé dans le cimetière sur la tombe de Sir John Rowell, enterré là, car on n'avait pas pu découvrir sa famille. L'index manquait. Voilà, mesdames, messieurs, mon histoire. Je ne sais rien de plus.
Ce jour-là, on avait tiraillé sans fin sur des oies d'un affût en haut de la falaise. Dispersé un vol après l'autre, jusqu'à ce que les canons de nos fusils nous brûlent les doigts. Des oies volaient partout dans l'air froid et gris. N'empêche, on n'avait pas tué notre quota, le vent dispersant nos plombs dans toutes les directions. L'après-midi avançait et on n'en avait que 4, 2 de moins que le quota. Poussés par la soif, nous descendîmes de la falaise puis par un chemin de terre le long de la rivière, jusqu'à une ferme aux allures maléfiques, entourée de champs moribonds, de champs d'orge, où, presque au soir, un homme aux mains dont la peau partait par plaques nous permit de puiser de l'eau dans un seau sur sa véranda. Puis nous demanda si nous voulions voir quelque chose. Une oie du Canada, qu'il gardait vivante dans un tonneau à côté de la grange. Le tonneau recouvert d'un treillis métallique était aménagé comme une petite cellule. Il avait cassé l'aile du volatile en le tirant de loin, dit-il. Puis poursuivi et rattrapé, fourré dans le tonneau. Il avait eu un éclair de génie. Il se servirait de cette oie comme d'un appelant. Avec le temps, cela se révéla le truc le plus dingue qu'il eût jamais vu. Cela vous attirait d'autres oies juste au-dessus de la tête, si près qu'on aurait presque pu les toucher avant de les tuer. Cet homme-là ne manquait jamais d'oies. Pour cette raison, son oie recevait tout le maïs et toute l'orge qu'elle pouvait manger, et un tonneau pour y vivre et pour y chier. J'ai pris tout mon temps pour bien la regarder. Sans bouger, l'oie me rendit mon regard. Seuls ses yeux me disaient qu'elle était vivante. Puis nous partîmes, mon ami et moi, encore désireux de tuer tout ce qui bougeait, tout ce qui passait dans notre ligne de mire. Je me rappelle pas si on dégomma autre chose ce jour-là. J'en doute. Il faisait presque noir d'ailleurs. Qu'importe. À présent, Pendant des années et des années par la suite, alors que je vivais remâchant le pain de l'amertume, je n'ai pas oublié cette toi. Je l'ai mis à part de toutes les autres, vivantes et mortes. J'en vins à comprendre qu'on peut bien s'habituer à tout, et n'être plus étranger à rien. Je vis que la trahison n'est qu'un autre nom du deuil, de la fin.
Mais bon, c'est une sorte d'expression que l'on emploie sans y penser, comme une simple ponctuation, et qui peu à peu perd de son sens en devenant un tic, si l'on n'y prend pas garde. C'est une pure contradiction. Le « mais » est une protestation, tandis que le « bon » se résigne. Nous l'employons souvent, et pourtant, elle ne mérite pas cette banalisation. Si on la regarde de plus près, on lui trouve un genre de richesse, selon les circonstances dans lesquelles on l'emploie. Dans le métro, par exemple. Vous m'avez écrasé le pied droit, mais bon, il me reste le gauche. Optimisme. J'aurais volontiers occupé cette place, d'autant que je suis fatiguée, mais bon, vous avez été plus rapide que moi. Dépit. J'avais acheté un billet de loterie, mais bon, je ne gagne jamais. Fatalisme. Je veux bien vous prêter mon téléphone portable, mais bon, n'en abusez pas. Énervement. Il y avait des œufs à la neige en dessert, mais bon, vous aviez très faim. Résignation. Je pense être arrivé avant vous à ce guichet, mais bon, vous avez l'air pressé. Tolérance. Ce n'est pas toujours aussi simple. Par exemple, j'avais demandé une bonne place en classe affaires et me voici en queue de l'avion. Je me plaindrai à la compagnie. Vous ne l'emporterez pas au paradis. Vous ne savez pas à qui vous parlez, mais bon, je ne veux pas faire d'espoir. Ah bon ? La traduction de « mais bon » pourrait être... C'est comme ça, c'est pas autrement, comme le disait Juliette. Pour ma part, j'aime à penser que les derniers mots que je prononcerai sur cette terre seront « J'aurais bien resté encore un petit peu, mais bon... » Vous comment êtes toujours...
Comment faut-il que je vous le dise ?
Dans l'émission, comment faut-il que je vous le dise ?
Comment faut-il que je vous le dise ?
Sur Radio Canus, en 2.2, la plus rebelle des radios.
Mon vieux, j'avais 16 ans durant la grande crise. Un soir que je rentrais ivre chez moi, je vis éparpillé sur la pelouse et le trottoir toutes mes affaires. Slip, chemise, chaussettes, ma valise et mes manuscrits de nouvelles. Ma mère m'attendait cachée derrière un arbre. « Henri, Henri, tire-toi! Sinon il va te tuer! Il a lu tes histoires !»« Il a pas intérêt à me toucher !»« Henri, s'il te plaît, prends ce qui t'appartient et trouve-toi une autre piole !» En fait, ce qui tracassait mon père, c'est que si je taillais le lycée, il allait devoir me supporter encore plus longtemps. L'autre soir, il vint me trouver avec à la main le manuscrit d'une de mes nouvelles, que par parenthèse, je ne lui avais pas demandé de lire. Et il me dit « Ça, c'est une histoire formidable !»« Ok, fis-je. » Et comme il me l'attendait, je la repris et je la relus. C'était l'histoire d'un homme riche qui, après une violente dispute avec sa femme, sort faire un tour. Et c'est la nuit, il entre dans un bar et commande une tasse de café. Il observe la serveuse et les cuillères. Et les fourchettes, et la salière, et le moulin à poivre, et l'enseigne du néon pour ensuite s'en aller vers son écurie, car il veut voir et caresser son cheval favori, qui lui balance un coup de sabot en pleine poire. Elle voit la mort. Allez savoir pourquoi, mais cette histoire parlait à mon père. Alors que je l'avais écrite, j'avais aucune idée de ce que j'écrivais. Aussi, après l'avoir relue, je lui ai dit « Ok, papa, tu peux la garder ». Il l'a prise, a regagné sa chambre et refermé sa porte. Je crois que rarement nous avons été aussi proches.
Crédule, crédule. Entre crédence et pendule, entre silence et scrupule, j'ondule. À chaque fois qu'on m'a dit « je t'aime pour la vie », j'ai tout mis dans la balance. Mes maisons et mes enfances, mes cuillères, mes bigoudis, mes bouteilles et chiantis, mes bouquins et mes chaussettes, tout ce que j'avais dans la tête. Puis un jour, c'est bien fini, c'était plus pour la vie. Je plantais là mes affaires, j'avais plus rien à en faire. À part un bébé, parfois, que je gardais pour moi. Crédule, crédule, entre chien-dent et renoncule, entre aurore et crépuscule, je bascule. Une autre fois qu'on m'a dit « je t'aime pour la vie », j'ai tout donné pêle-mêle, mes chagrins et mes gamelles. Mes oiseaux de paradis, les mots qu'on n'a jamais dit, les fous rires et les taloches, les baisers de fond de poche. Puis un jour, c'était bien fini, c'était plus pour la vie. J'abandonnais mes claquettes, mes torchons, ma mobilette, partais avec ma smala, trouvais un nouveau toit. Crédule, crédule, écuyère ou funambule, admirable ou ridicule, je brûle. Vous qui n'avez jamais dit « je t'aime pour la vie », je me change en libellule, plus besoin d'être crédule. Je n'ai plus rien à vous donner, alors vous pouvez m'aimer.
Ma vie s'écoule sans heurte ces temps-ci. Mais qui pourrait dire que jamais plus elle ne tanguera ? Ce matin, je me suis rappelé une petite amie que j'ai eue juste après mon mariage été rompu. Une gentille fille nommée Jean. Au début, elle n'avait pas idée de l'ampleur du désastre. Cela a pris un moment. Mais elle m'aimait tout plein malgré tout, disait-elle. Et je sais que c'est vrai. Elle m'hébergeait chez elle où je menais mes petites affaires minables de mon existence, en me servant de son téléphone. Elle achetait mon alcool et me disait que je n'étais pas un ivrogne comme les autres pochetrons, le prétendait. Elle faisait des chèques pour moi, elle les laissait sur mon oreiller quand elle partait au travail. M'offrit une veste Pendleton pour Noël, une veste que je mets encore. Pour ma part, je lui ai appris à boire, à s'endormir tout habillé, à se réveiller en sanglots au milieu de la nuit. Et quand je partis, elle régla 2 mois de loyer pour moi, elle me donna sa télé noir et blanc. On se parla une fois au téléphone, 2 mois plus tard. Elle était saoule, et bien sûr, je l'étais aussi. La dernière chose qu'elle me dit fut « Est-ce que je reverrai ma télé un jour ?» Je fis des yeux le tour de la pièce, comme si la télé pouvait soudainement apparaître à sa place, sur la chaise de la cuisine, ou encore sortir d'un placard pour se dénoncer. Mais cette télé avait disparu, dans ma débâcle, depuis des semaines. La télé que Jean m'avait donnée. Je ne lui dis pas ça, je mentis, évidemment. Bientôt, dis-je, bientôt, très bientôt. Et je raccrochais le téléphone, après ou avant elle. Mais ces paroles ensommeillées, une fois dites, me firent sentir que j'étais arrivé au bout d'une histoire. Et qu'à présent, cet ultime mensonge derrière moi, je serai tranquille. Les nuits de Bonnard. Son épouse. 40 années durant, il la peignit. La peignit encore et la repeignit. Le nu de la dernière toile, le même jeune nu que celui de la première, son épouse. Tel qu'il se la rappelait jeune, tel qu'elle était jeune. Son épouse au bain, à sa coiffeuse, devant le miroir, dévêtue. Son épouse, les mains sous les seins, regardant le jardin par la fenêtre, le soleil prodiguant chaleur et couleur. Tout ce qui vit s'épanouit là. Elle, jeune et frémissante, est tellement désirable. Quand elle mourut, il la peignit encore un peu, puis quelques paysages, et puis mourut. Et on le coucha près d'elle, sa jeune épouse.
Au levant, qu'avant. J'ai rien appris, rien chaque fois. Sinon qu'on n'en meurt pas, sinon qu'on n'en meurt pas. C'est la nuit, au triste jour. On ne meurt plus d'amour. On ne meurt plus d'amour. On ne meurt plus. On ne meurt plus d'amour. On ne meurt plus. On ne meurt plus d'amour. On ne meurt plus. On ne meurt plus. Passe au travers, embrasse l'air, tu me vois. Tu me vois devant. Passe la teinte, reste l'absente. Passe-moi, passe-moi dedans. J'ai rien appris, rien chaque fois. Sinon qu'on n'en meurt pas. Sinon qu'on n'en meurt pas. C'est la nuit, au triste jour. On ne meurt plus d'amour.
Alors que j'étais déjà en pleine fuite dans le train qui m'emmenait vers le nord, j'aurais été incapable de dire exactement pour quelles raisons j'avais rejeté la culture qui m'avait formée, façonnée. Je partais sans remords, sans un seul regard en arrière. Le sud ne m'avait montré qu'un visage hostile et rébarbatif. Et malgré tout, parmi les conflits et les injures, les coups et la colère, l'angoisse et la terreur, j'étais arrivée à concevoir l'idée d'une vie différente, plus pleine et plus riche. Comme lorsque je m'étais échappée de l'orphelinat. Je fuyais quelque chose plutôt que je n'allais vers quelque chose. Mais pour moi, cela n'avait pas d'importance. Je n'avais qu'une idée en tête. Il faut que je m'en aille. Je ne puis rester ici. Mais qu'est-ce qui m'avait donné ce sentiment? Qu'est-ce qui m'avait rendu conscient de certaines possibilités? Où avais-je donc, dans ces ténèbres du Sud, pris le sens de la liberté? Comment se faisait-il que je fusse à même d'agir après de vagues intuitions? Qu'était-ce donc qui me faisait sentir des choses avec assez d'acuité pour que j'essaie de régler ma vie d'après mes sentiments? Le monde extérieur, des blancs et des noirs, qui était le seul monde que je n'eusse jamais connu, ne m'avait sûrement pas inspiré confiance en moi-même. Les gens que j'avais rencontrés m'avaient conseillé ou avaient exigé de moi la soumission. Dès lors, qu'étais-je en train de chercher ? Comment pouvais-je considérer mes sentiments comme supérieurs à ceux du milieu primitif qui tentait de me revendiquer comme sien ? Ce n'était que par les livres, ces transfusions de culture par procuration, en mettant des choses au mieux, que j'étais parvenue à rester en vie d'une façon négativement vitale. Chaque fois que mon entourage s'était montré incapable de m'aider ou de m'alimenter, je m'étais rabattue sur les livres. Si bien que ma foi dans les livres provenait plus d'un sentiment de désespoir que d'une conviction bien ancrée de leur valeur ultime. D'une façon assez bizarre, la vie m'avait, au point de vue émotif, coincée dans un domaine strictement négatif. Ce n'est pas à la suite d'un choix délibéré que j'avais embrassé la cause de l'insurrection. Vivant, émotionnellement parlant, sur la marge étroite et dangereuse de la culture du Sud, j'avais senti que chacune de mes actions et de mes décisions mettait en cause ma vie tout entière. Je m'étais accoutumée au changement, au mouvement, à me réadapter constamment. Dans l'ensemble, mon espoir était simplement une sorte d'autodéfense. La conviction que si je ne partais pas, je périrais. Soit par le fait de violence exercée contre moi, ou par moi contre d'autres. La substance de mon espoir était informe et ne s'orientait en direction d'aucun objet précis. Car dans ma vie méridionale, que je n'avais pas vu se dresser ce point de repère, grâce auquel j'eusse pu orienter mes actes quotidiens. Les heures de la vie que j'avais menées dans le Sud avaient endolori ma personnalité, l'avaient rendue volatile, sensible à l'extrême. Et si je partais, c'était plus pour fuir les dangers extérieurs que pour essayer de réaliser mes confuses aspirations. C'est la lecture fortuite de romans d'imagination et de critiques littéraires qui m'avait donné de vagues aperçus des possibilités de la vie. Je n'avais naturellement jamais vu ou rencontré les auteurs des livres que je lisais. Et le genre de monde dans lequel ils vivaient m'était aussi étranger que la lune. Mais ce qui m'avait permis de vaincre ma méfiance chronique, c'est le fait que ces livres, écrits par des hommes tels que Dresser, Masters, Mencken, Anderson et Lewis, me paraissait être une critique défensive du milieu américain bigot et rétréci. Ces auteurs semblaient trouver que l'Amérique pouvait être façonnée selon les vœux de ses habitants. Et c'est grâce à ces romans, à ces nouvelles et à ces articles, grâce au choc émotionnel des constructions imaginatives, de faits héroïques ou tragiques, que j'avais senti sur mon visage la douce chaleur d'un rayon de lumière inconnu. Et en partant, je me dirigeais instinctivement vers cette lumière invisible, en tâchant toujours de tourner et d'orienter mon visage de façon à ne pas perdre l'espoir, qu'avait fait naître sa faible promesse et en m'en servant comme d'une justification de mes actes. Le Sud blanc prétendait qu'il connaissait les moricots et j'étais ce que le Sud blanc appelait un moricot. Mais le Sud blanc ne m'avait jamais connu, n'avait jamais su ce que je pensais, ce que je sentais. Le Sud blanc prétendait que j'étais une place dans la vie. Mais là-bas, je ne m'étais jamais sentie à la place que le Sud blanc m'avait assignée. Jamais je n'avais pu me considérer comme un être inférieur. Et aucune des paroles que j'avais entendues tomber des lèvres des blancs n'avait pu me faire douter réellement de ma propre valeur humaine. Il est vrai que j'avais menti. J'avais volé. J'avais lutté pour contenir une colère envahissante. Je m'étais battue. Et c'était peut-être par pur hasard que je n'avais jamais été tuée. Mais de quelle façon le Sud m'avait-il permis d'être naturel, d'être réel, d'être moi-même, sinon dans la négation, la rébellion et l'agression ? Non seulement les Blancs du Sud ne m'avaient pas connu, mais, fait plus important encore, la façon dont j'avais vécu dans le Sud ne m'avait pas permis de me connaître moi-même. Étouffée, comprimée par les conditions d'existence dans le Sud, ma vie n'avait pas été ce qu'elle aurait dû être. Je m'étais conformée à ce que mon entourage, ma famille, conformément aux lois édictées par les Blancs qui les dominaient, avaient exigé de moi. J'avais été le personnage que les Blancs m'avaient assigné. Je n'avais jamais pu réellement être moi-même. Et j'appris peu à peu que le Sud ne pouvait reconnaître qu'une partie de l'homme, ne pouvait admettre qu'un fragment de sa personnalité, et qu'il rejetait le reste, le plus profond et le meilleur du cœur et de l'esprit. Par ignorance aveugle et par haine. Je quittais le sud pour me lancer dans l'inconnu, à la rencontre de situations nouvelles qui m'arracheraient peut-être des autres réactions. Et si je pouvais trouver une vie différente, alors peut-être pourrais-je, lentement et graduellement, apprendre qui j'étais et ce que je pourrais devenir. Je quittais le sud non pour oublier le sud, mais afin de pouvoir un jour le comprendre, savoir ce que ses rigueurs m'avaient fait à moi et à tous ses enfants. Je fuyais pour que fonde cette insensibilité consécutive à des énervies défensives et pour pouvoir sentir, beaucoup plus tard et loin de là, les cicatrices douloureuses laissées par ma vie dans le sud. Et cependant, au profond de moi-même, je savais que je ne pourrais jamais quitter réellement le sud, car mes sentiments avaient déjà été façonnés par le sud, car tout noir que je fusse, la culture du sud s'était peu à peu infiltrée dans ma personnalité et dans ma conscience. Aussi, en partant, j'emportais une parcelle du sud pour la transplanter dans un sol étranger, afin de voir si elle pouvait croître différemment, si elle pouvait boire une eau fraîche et nouvelle, se courber au souffle de vents étrangers, réagir à la chaleur de soleil nouveau, et peut-être fleurir. Et si ce miracle s'accomplissait, je saurais alors qu'il y a encore de l'espoir dans cette fondrière de désespoir et de violence. Je saurais que la lumière peut naître même des ténèbres les plus noires. Je saurais aussi vaincre sa peur, sa haine, sa lâcheté, son héritage de crimes et de sang, son fardeau d'angoisse et de cruauté forcenée. L'œil aux aguets, portant des cicatrices visibles et invisibles, je pris le chemin du Nord, imbu de la notion brumeuse que la vie pouvait être vécue avec dignité, qu'il ne fallait pas violer la personnalité d'autrui, que les hommes devraient pouvoir affronter d'autres hommes sans crainte ni honte, et qu'avec de la chance, dans leurs existences terrestres, ils pourraient peut-être trouver une sorte de compensation aux luttes et aux souffrances qu'ils endurent ici-bas sous les étoiles.
Et vous êtes toujours sur Radio Canus 102.2.
Et c'est la fin de l'émission. Voilà, voilà. Et du coup, pour désannoncer tout ce qu'on a lu, donc moi j'ai lu des textes inédits qui disent d'Anne Sylvestre, qui décrit des mots qu'elle aime bien. Voilà, tout simplement. Et j'ai utilisé pour ceci une musique super pour danser sur de la trance de Philippe Glass qui s'appelle Glass Pieces et c'est la numéro 8 qui dure 8 minutes et c'est top top top. Voilà, et toi Julie?
Une petite série de d'un inventaire des destructions d'œuvres d'art recueillies par Éric Vattier. Donc des destructions qu'il donc là c'est une seconde édition et qui a commencé en 1999, des personnes, des artistes qui ont laissé leurs œuvres sur le trottoir lors d'un déménagement, qui se sont fait chaparder leurs œuvres pour différentes raisons, des destructions à cause d'un incendie, à cause d'un truc qui s'est envolé, d'un truc perdu. Et c'est aux éditions Un Certain Sens et je remercie le cabinet du livre d'artistes de m'avoir fait découvrir cette pépite. Dans la série qui fait peur, parce que des fois on parle d'amour et de choses douces, mais il y a aussi les contes fantastiques de Guy de Maupassant, les classiques pour ceux qui ne les auraient pas encore lus au collège, lycée, comme moi je ne l'avais pas fait non plus.
L'amour fait peur, Julie.
L'amour aussi fait peur. Mais moins qu'une main coupée qui coupe des têtes quand même. Donc il ne faut pas avoir trop peur de l'amour. Voilà.
Voilà, moi j'ai lu quelques extraits d'un recueil de poésie de Raymond Carver. Voilà, pour moi c'est aussi une découverte. Donc je sais pas, un petit Bukowski placé en plein milieu avec une bande son de Youm, Everywhere Home. On avait aussi Roby, On ne meurt plus d'amour. Mais on avait aussi une invitée, Julie. Je crois que tu peux en dire plus.
Oui, juste un autre bouquin que j'ai lu aussi.
L'invité
pour terminer. L'invitée était l'auteur Richard Wright avec Black Boy, et qui cherche du coup où se sentir libre d'être et d'être tous acceptés tels qu'on est, sans ségrégation. Et l'invitée que nous avions, c'est Alina. Qui nous a lu ses propres écrits et en fait sont des des écrits un petit peu de tous les moments de vie, des petites réflexions, des choses décalées et qui sont donc là, elle nous les a traduits. Elle écrit principalement en anglais, en roumain, son pays d'origine. Et donc là, pour qu'on ait un peu plus accès à ces images, elle nous a fait le plaisir de nous les lire en français. C'est souvent en lien autrement avec son travail de photographie, de plein de détails et de mise en scène de la vie quotidienne pour réenchanter des petites choses qui se passent autour de nous et qui font qu'on est en lien avec les autres. Et voilà. Pour terminer, une chanson encore, Nicolas Cruz, Danza de Vivion.
Et on vous laisse avec le Canu Info. À dans 2 semaines.
À dans 2 semaines.
Ciao,
ciao. Ciao. Ciao.